vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Les meilleurs entretiens de la saison avec Isabelle Morizet, qui s'entretient donc jusqu'à 22h avec le comédien André Dussolier.
Europe 1.
Bonjour André Dussolier.
Bonjour.
Alors cher André Dussolier, dans Tanguy le Retour, votre fils de cinéma, âgé désormais de 44 ans et quitté par sa femme, décide de revenir habiter chez ses parents, ce qui représente vraiment le pire cauchemar pour le couple de parents que vous formez avec Sabine Azéma, installé dans vos habitudes. J'ai envie d'entrée de jeu de vous dire que franchement voilà un film qui ose pourfendre l'idée théoriquement non négociable du vivre ensemble.
Oui, c'est-à-dire qu'on connaît le principe de Tanguy avec le premier film qui est sorti en 2001. Moi, je pensais que ce film allait absolument, je ne savais pas très bien quelle réaction il allait provoquer, parce qu'on ne touche pas à la chair de sa chair. Un enfant, c'est sacré. Et donc, Étienne Châtillès s'est régalé. Puis quand j'ai vu que les gens étaient tout à fait ravis de voir qu'on avait envie de sa liberté et qu'on n'était pas obligé de supporter un enfant 24 heures sur 24, et donc ça faisait l'objet d'une comédie, bon, c'était vraiment... Et c'était inimaginable qu'on puisse faire une suite, parce que ce n'est pas vraiment le genre d'Étienne Châtillès de faire des suites.
Ouais.
Et tout d'un coup, c'est parti de l'idée d'un producteur, Jérôme Corcos et Antoine Bezet, deux producteurs avec qui j'avais travaillé, qui ont dit, mais si Tanguy revenait. C'est vrai qu'on a vu quelques films comme ça, où les enfants reviennent vivre chez leurs parents pour des raisons économiques. Bon, là, Tanguy, j'y suis allé sur la pointe des pieds en m'adressant à Étienne, et donc une semaine après, il est revenu avec une histoire et qui est en effet que Tanguy, ben, ma foi, il a son ADN, il est bien à la maison, comme dit Sabine Azéma dans le film, et donc il s'installe petit à petit, s'incruste, parce que c'est sa nature d'être là et de revenir chez lui.
Et ça va être un enfer. Alors, en 2019, le vivre ensemble est devenu plus qu'une injonction. C'est même un argument de pub. Donc, Tanguy le Retour est encore plus politiquement incorrect que Tanguy sorti en 2001. On va encore plus loin dans le blasphématoire.
Oui, parce que le vivre ensemble, bien sûr, mais en même temps, c'est pour des raisons, je pense, économiques, quelquefois que les enfants sont obligés de revenir un peu chez les parents. Aujourd'hui, c'est donc un petit peu difficile pour tout le monde, peut-être. Tandis que là, Tanguy, c'est un peu autre chose. C'est une sorte de... Étienne Châtillès dirait qu'il a, c'est un psychopathe, quoi. Il ne peut pas s'empêcher de revenir tout le temps à la maison parce qu'il est bien là, quoi. Et moi, je pense franchement que c'est une question de génération. Moi, je me souviens que quand j'avais 23 ans, j'avais vraiment envie de partir de chez moi, de ne pas suivre la voie tracée par les parents et les adultes. Et après, moi, j'ai deux enfants et donc j'ai voulu être, proche d'eux. Et donc, il y a un côté copain qui font que... eux, ils restent volontiers quoi, avec les parents. Et donc, c'est ça peut-être qui a créé la génération des Tanguy dont on n'arrive pas à se défaire.
Voilà, cette génération boomerang. Mais le fait qu'elle se plaise tant à revenir jouer les coucous dans le nid familial, vous pensez que c'est à mettre vraiment sur le compte des problèmes économiques ou la raison est quand même plus profonde?
Mais je pense qu'on est bien à la maison et de revenir toujours au milieu des parents ou de ses habitudes, c'est pas forcément désagréable. Hein. On a des repères affectifs qui sont là, qu'on aime retrouver. Il peut y avoir aussi des repères irritants qui fait qu'on a envie de s'en séparer. Tout dépend de l'éducation et du rapport qu'on a eu avec ses parents. Et donc, il n'y a pas de règle, quoi, vraiment.
Alors, vous venez de nous confier, André Dussolier, que vous êtes un père extrêmement proche de ses enfants, un père très aimant. J'aimerais savoir pourquoi vous dites que ça vous a déculpabilisé de voir que vous aviez du plaisir à jouer ce père qui imagine le pire pour mettre son fils dehors.
Mais parce que j'aime bien la comédie. Et puis, je pense qu'Étienne, il a une façon, justement, inattendu de dévoiler ou de révéler des choses qu'en général on ne dévoile pas, quoi. C'est-à-dire parler de son enfant comme ça ou se comporter avec son enfant comme ça, ça n'est pas admis, quoi. C'est pas, c'est vraiment pas possible. Donc, et en fait, il a tout ça est parti d'un fait divers en 2001 parce qu'il a vu dans un article de journal qu'un enfant, enfin une mère qui supportait son enfant qui avait 32 ans, qui était toujours avachi sur le canapé en train de regarder la télévision, elle a voulu changer les serrures, donc il a plus pu rentrer chez sa mère, il a fait un procès à sa mère, il a gagné. Donc à partir de là, bon, il dit tiens, c'est un bel exemple, en effet. Alors, il a des enfants aussi.
Oui.
Donc il s'est dit que voilà, le conflit des générations faisait qu'il y avait de quoi en parler, quoi, de quoi faire ce portrait.
Sur le plateau de tournage, toute l'équipe de Châtillès était du côté des parents. J'aimerais savoir.
Disons que du côté de la... Quand on est dans une comédie et qu'on subit un peu les choses et qu'on est obligé de subir l'enfant qui s'incruste parce qu'il a 44 ans, là. Puis alors, non seulement il n'est pas, c'est pas comme en 2001, il arrive avec sa fille.
Il ne revient pas seul.
Non, il ne revient pas seul. Et donc, ça se complique de plus en plus. Et Sabine et moi, qui avions l'impression de vivre une vie, une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse, et bien tout d'un coup, on est vraiment bridés, on ne peut plus rien faire. Et alors, les Chinois n'ont pas la même culture que nous, même les Chinois qui vivent en France, j'ai vu aussi, ils ont une culture à la fois chinoise et française, et donc ils n'ont pas la même culture, et c'est-à-dire que c'est très famille chez eux, donc ça ne les embête pas de vivre tous ensemble. Donc évidemment, les pauvres parents de Tanguy, ça devient infernal quoi, pour eux.
Alors, j'ai appris, André Dussolier, que en fait, ceux qui jouent la fille de Tanguy, le petit ami de celle-ci, et puis sa mère, et qui sont donc chinois, ne sont absolument pas comédiens.
Non.
Les deux premiers sont étudiants, et celle qui joue la mère est conférencière à Sciences Po. Ils n'avaient absolument jamais tourné de leur vie.
Oui.
Comment vous y êtes-vous pris pour tous vous mettre au diapason ?
Eh bien, ça s'est passé assez naturellement. C'est vrai que c'est difficile de trouver à la fois, parce qu'ils parlent chinois dans le film. Et donc, mais ça s'est passé assez naturellement. Ils n'avaient jamais tourné, en effet, mais je sais pas, le plaisir d'être là dans cette histoire qu'ils connaissaient fait que ça s'est passé, et puis sous la direction d'Étienne, très, très naturellement.
C'est un bon lien. Ouais. Alors ce film, Tanguy le Retour, a été tourné au studio d'Épinay, et pour des raisons de commodité, Étienne Chatiliez, Sabine Azéma et vous, André Dussolier, il paraît que vous dormiez à Enghien, juste à côté donc des plateaux de tournage. Et il paraît que tous les soirs après le tournage, justement, vous vous retrouviez tous les trois pour dîner, pour refaire le monde. C'est quand même assez rare pendant l'aventure d'un film,
Oui, très rare, très rare, très rare. C'est comme si on était en province. Et d'ailleurs, Enghien, c'est un peu la province. Puis il y a ce très beau lac et tout. Et donc, on était là après le tournage. Et donc, du coup, on se retrouvait le soir. Et on ne s'est jamais autant parlé, Étienne, Sabine et moi, que ces jours de tournage où tout d'un coup, c'était la prolongation. Il faut dire qu'on avait tourné ensemble en 2001. Donc, on se connaissait bien.
Oui.
Et il y avait une sorte de, comment dire, d'évidence ou de facilité à se retrouver ensemble.
Et puis avec Sabine Azéma, vous avez si souvent tourné sous la direction d'Alain Resnais.
Exactement, on a fait beaucoup de rôles, des rôles dans des films dramatiques ou des comédies aussi. Donc du coup, oui, il y avait une sorte de famille, c'était une petite famille qu'on formait à trois. On ne parlait pas du tout du tournage, on ne parlait pas du tout de ce qu'on venait de faire ou de ce qu'on allait faire le lendemain. On parlait de la vie. Et c'était vraiment très très agréable. Et ça nourrissait un peu notre travail.
Alors, ce sont souvent des étendards, les personnages d'Étienne Chatiliez, les Groseilles et les Lequesnois, Tati Daniel, Agathe Cléry d'ailleurs,
oui,
puisque ça nous parlait de racisme,
oui.
Tanguy, bien sûr. En fait, sous couvert de comédie, comme il n'a jamais peur d'être blasphématoire, Chatiliez, il met toujours le doigt là où ça fait mal. Mais vous pensez que le regard qu'il a sur les gens vient finalement de sa première vie de publicitaire ?
Ah, je ne sais pas si... Non, je crois que ça vient vraiment lui.
Parce qu'il faut vraiment savoir stigmatiser les choses.
Vous avez raison de souligner ça, parce qu'il a vraiment... Dans la vie, quand on le connaît, il ne peut pas s'empêcher de faire des remarques à propos de tout, de l'actualité, de ce qu'on vit, de la manière de vivre, mais vraiment avec un humour féroce, hein, vraiment. Il n'a pas peur de balancer des choses comme ça en direct sur... Donc, c'est toujours des pirouettes, c'est toujours drôle, c'est toujours amusant, c'est toujours inattendu. Alors, vous avez raison, parce que un publicitaire, et on l'a vu dans sa façon de travailler, il est obligé de faire court quoi, à chaque fois, de dire le maximum de choses en très peu de temps. Et donc, du coup, peut-être que cette manière d'être aussi correspondait bien à la publicité dans laquelle il a fait des films, en effet, qui restent dans nos mémoires. Et puis aussi dans la manière de tourner, où il cherche, à travers la comédie, à raconter des choses qui lui sont chères, qui sont importantes, qui racontent un peu notre vie de tous les jours, mais aussi avec une sorte d'efficacité qu'il recherche et qui s'apparente aussi à la publicité.
Oui, d'intensité, de relief.
Oui, complètement.
Il est 21h12, la suite de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet retrace le portrait d'une personnalité, un comédien, un artiste aujourd'hui. C'est André Dussolier. Il était invité à l'occasion du film Tanguy le Retour d'Étienne Chatiliez. Alors il parlait de son actu, mais aussi de son parcours, bien évidemment.
Alors cher André Dussolier, est-ce que grandir cerné par les montagnes, donc avec le regard sur les cimes, appelle à se hisser plus haut que soi ?
Ça aide à regarder le monde de haut plutôt. Moi, j'ai l'impression qu'on a une sorte de distance naturelle quand on monte sur la montagne. D'abord, on est en rapport et en fusion avec la nature, ce qui nous écarte un petit peu du face-à-face des humains et de la difficulté d'être de vivre avec les autres. Et parce que voilà, je veux pas dire que c'est un enfer. Moi, j'en fais toujours une espèce de joie et de plaisir. Mais quand même, il peut y avoir une cohabitation quelquefois un peu délicate. Et la montagne, la nature, ça vous permet de vous échapper canapé. Et moi, j'aime bien voir les choses de haut. Et quand on est dans la nature, on a ce sentiment assez rapidement de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, d'être en rapport avec, avec l'élément naturel qui fait que, voilà, il n'y a plus d'autre chose à faire que de se porter et d'apprécier.
Enfin, il n'y a plus d'autre chose à faire. Pas tout à fait, parce que je vous pose la question... parce que vous avez grandi près d'Annecy, donc dans des paysages d'une beauté fulgurante, mais vous en êtes quand même parti, parce qu'un destin d'acteur ne se joue pas dans ces contrées-là.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce que j'avais découvert assez vite, à l'âge de 10 ans, grâce à un professeur, le théâtre, la comédie, le jeu, et vraiment, je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus passionnant. J'avais fait des études, mais les études m'amenaient vers un rôle de professeur que j'aurais dû assumer toute une vie. Alors, je ne me sentais pas du tout la vocation pour faire ça, mais par contre, le jeu... avoir plusieurs vies, rejoins le titre de votre émission, avoir plusieurs vies, c'était formidable, quoi, de jouer, de dire les mots des autres, d'éprouver les émotions et de les partager avec le public, c'était un régal, quoi. Donc du coup, en effet, il a fallu envisager de partir, de quitter la province, parce que en province, il n'y a pas de troupe d'acteurs professionnels, il n'y a pas de théâtre professionnel, il n'y a pas de vie professionnelle pour les acteurs. On est obligé de venir à Paris, comme pour bien d'autres métiers d'ailleurs. Donc du coup, en effet, au bout de mes études, j'ai tenté l'aventure en allant à Paris.
Je reste un moment sur l'enfance, parce que vous étiez le fils unique d'un couple de percepteurs. Votre maman était inspectrice des impôts et votre père trésorier principal. Donc on est vraiment dans la méritocratie d'après-guerre. Vos parents vous espéraient sous-préfet et au pire pharmacien, c'est
ça ? Oui, au pire pharmacien, voilà. Oui, c'est-à-dire que mon père, je pensais à travers moi qu'il briguait un peu, parce qu'il a eu le mérite. Lui, il descendait de la montagne où ses frères avaient tous une ferme, etc. Et lui, il n'avait pas voulu continuer cette tradition-là. Il est descendu à la ville, c'est là qu'il a rencontré ma mère, et donc lui, il est rentré dans la fonction publique. Mais il a fait donc une progression interne par concours, comme ça, et puis sans doute, il voulait aller encore plus haut, mais donc du coup, j'étais vraiment le bon relais, quoi, pour lui, à ses yeux. Mais ça ne me tentait pas du tout, j'entendais parler chiffres toute la journée, et donc je me suis vite réfugié, étant fils unique, c'est vrai, vivant dans un petit village, à la fois dans le sport et le théâtre, ça m'allait bien, je pouvais rêver à volonté.
Vous veniez d'un monde très clos, vous n'aviez pas la télévision, et à la maison, en fait, personne jamais n'exprimait ses sentiments.
Non, c'était assez rare, toutes les choses ne se disaient pas, surtout pour un garçon, ne s'exprimaient pas vraiment facilement, et même c'était après la guerre tout ça, donc c'était, enfin moi je suis né en 46, et donc du coup on ne disait pas beaucoup de choses, on ne parlait pas politique, on ne dévoilait pas ses sentiments, c'était en effet, on était un peu dans un vase clos où il n'y avait pas une grande communication comme il peut y avoir aujourd'hui, donc du coup comme le monde des adultes, je ne parle pas seulement de mes parents, mais autour de moi, étaient quand même assez balisés, tracés à l'avance. Moi, j'avais pas tellement envie de faire un peu comme eux. J'avais envie de faire autre chose, de vivre pleinement. Et donc, du coup, le théâtre m'a donné l'occasion, je sais pas, de vivre plusieurs vies.
Mais alors, André Dussolier, l'onde de choc qui a provoqué cette première sortie au théâtre, vous en avez parlé à vos parents ou vous n'avez pas osé ?
Peut-être j'en ai parlé, mais je ne savais même pas que le théâtre existait. Moi, vraiment, c'était incroyable. Elle nous a emmené voir Poil de Carotte de Jules Renard, et j'étais sidéré de voir que des acteurs pouvaient rire, pleurer, dire des choses qu'on ne disait pas à la maison, des choses absolument... En plus, ça racontait de la vie de famille d'un enfant qui était avec des parents assez sévères. Donc vraiment, l'identification était facile. Je voyais bien les... Et il y a plus, il y avait des gens qui avaient payé leur place pour assister à ça, qui riaient. Je me disais, mais c'est incroyable quand même, ce monde-là, c'était vraiment inattendu, c'est bien mieux que le monde réel. Donc du coup, c'était un choc pour moi. Je sais pas si j'ai voulu leur en parler, non, j'ai dû garder ça secret pour moi. J'ai partagé ça avec le professeur qui montait des pièces aussi.
Donc c'est comme ça que vous avez entretenu le lien avec le théâtre, en participant aux pièces que votre prof montait ?
Complètement, dès le plus jeune âge, à 10-11 ans, j'étais en 6e, et donc du coup, je participais à ses pièces, et ça n'a été qu'une voie, une double vie comme ça, parallèle aux études. C'était où je faisais du théâtre, mais jusqu'à 23 ans, au moment où je suis parti à Paris.
C'est à la découverte de Sartre, en classe de philo, que vous devez d'avoir osé vos premières rébellions, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vrai, parce que Sartre, j'avais un professeur de philo, ça dépendait beaucoup, parce que j'ai redoublé ma philo, parce que premier professeur de philo, lui, alors il nous faisait recopier les cours, c'était vraiment, la philo n'était vraiment pas...
Elle était rébarbative.
Oui, complètement. Et puis tout d'un coup, l'année d'après, je rate mon bac, et tant mieux, parce que ça m'a permis de rencontrer un professeur de philo. Alors lui, j'avais l'impression d'être au café, de discuter librement. Son programme, il l'appliquait en échangeant avec nous, et vraiment, et là, il nous enseignait Sartre, Et là, par le biais de Sartre, j'ai vu qu'on pouvait, on n'était pas déterminé par la vie, par, ce, par son éducation, par son milieu, on pouvait prendre sa vie en main et faire ce qu'on avait envie de faire. C'est, ça a l'air de rien, c'est évident évidemment aujourd'hui, mais pour moi, à cette époque-là, ça disait beaucoup de choses et ça changeait l'orientation et la sensation de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire en désobéissant quoi, et en m'écoutant.
Mais vous dites, on n'est pas déterminé par son éducation, tout de même, André Dussolier, vous avez attendu d'avoir 18 ans pour annoncer à votre père, par exemple, que vous n'iriez plus avec lui le dimanche à la messe. Absolument. Alors, ça peut sembler anodin, c'était une petite révolution au cœur de la famille.
Une grande révolution. Ah oui, une énorme révolution, parce qu'en effet, une famille très catholique, donc tout ça, c'était la tradition qui se perpétuait de génération en génération. Donc là, tout d'un coup, je brisais la chaîne, et c'était rude. Je me souviens toujours de ce dimanche, on en avait parlé toute la semaine, mon père, je respectais sa foi, etc., mais j'avais dit non, je n'irai pas, parce que j'avais rencontré Sartre et mon prof de philo, donc c'était vraiment pour une échappatoire formidable. Et tout d'un coup, le dimanche arrive, et là, vraiment, c'est vrai, y compris, je peux dire, concrètement, physiquement, c'était vraiment la rupture du lien avec mon père, quoi, parce que voilà, c'était, non, je voulais pas céder, et donc, du coup, ça disait beaucoup plus que de pas suivre tradition, quoi, ça disait mes rapports aussi avec lui, bien sûr, à travers cet exemple de la religion.
Mais j'imagine, bien sûr, que en choisissant de faire des études de lettres modernes, et d'ailleurs, vous avez votre maîtrise de lettres modernes, forcément vous aviez une idée derrière la tête. C'était gagner du temps, rester en contact avec les grands textes avant de les appréhender, c'est ça?
Oui, c'était
vraiment
gagner,
par la voix.
Bah, gagner du temps, parce que franchement, être comédien, c'était très très loin. Il n'y avait pas seulement 600 km entre Annecy et Paris, mais il y avait deux mondes, c'était vraiment inaccessible pour moi, inenvisageable. Je suivais tout ce qui se passait, tout ce qui se disait sur le théâtre, j'allais même au théâtre à Annecy, je voyais des spectacles qui avaient été créés à Paris, vraiment, et que je voyais à Annecy, puis aussi à Grenoble, enfin des choses extraordinaires. Ça me plaisait beaucoup, mais ça paraissait vraiment tellement loin, tellement inaccessible. Et pendant ce temps, j'allais voir les films de Truffaut et j'étais loin de me douter que 3 ans après être monté à Paris, le premier film que je ferais, ce serait avec Truffaut.
Voilà.
André Dussolier, oui, vous l'avez reconnu. Vous savez qu'il est en tournage actuellement. Son prochain film s'appelle La Grande Déraille. Il va jouer aux côtés de Jérôme Commandeur. Un premier long métrage signé Benjamin Evrard et dont la sortie en salle est prévue pour l'hiver prochain, 2019-2020. En attendant, il se raconte au micro d'Isabelle Morizet jusqu'à 22h ce soir. La suite de N'y a pas qu'une vie dans la vie, ce sera juste après Patrick Fiori. Les gens qu'on aime sur Europe 1, il est 21h21. Jusqu'à 22h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1, un tête-à-tête avec une personnalité. On remonte le fil des souvenirs. Isabelle Morizet s'entretient donc avec le comédien André Dussolier.
Cher André Dussolier, vous vous souvenez de ce jour où, ayant eu enfin le culot de mettre le cap sur Paris, vous avez frappé à la porte du conservatoire, mais sans jamais avoir pris de cours de comédie?
Enfin, j'avais pris des cours, mais en province, donc ça n'avait rien à voir avec les cours qu'on peut prendre déjà à Paris, qui sont l'antichambre du monde professionnel. Donc j'ai frappé naïvement. C'était une vague relation très lointaine d'amis de mes parents. Et M. Caudrier était intendant, je me souviens. Et donc, ben, lui, il connaissait pas trop l'art dramatique, mais enfin, en tant qu'intendant du conservatoire, il pouvait m'orienter.
Oui.
Et il m'a dit, ben voilà, si tu veux présenter des concours d'entrée, il faut que tu ailles dans un cours. Donc alors, il m'a cité plusieurs cours. Et puis il m'a dit, ben celui-là, il est sérieux.
Jean-Pierre Imoni, c'est ça?
Jean-Pierre Imoni, donc j'allais chez le sérieux. Et j'étais content de le voir. Sauf que Perry, quand il m'a vu, on l'appelait Perry, il me dit, mais non, tu vas pas rentrer au conservatoire tout de suite. J'ai dit, mais je suis trop vieux, je suis à la limite d'âge, j'ai 23 ans. Il me dit, t'as qu'à demander une dérogation. J'ai demandé une dérogation. Je sentais qu'il avait raison, quoi, parce qu'il fallait vraiment travailler.
Vous n'étiez pas prêt?
Non, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que entrer au conservatoire, après, il disait très justement qu'on était un peu livré à soi-même et que là, c'est vrai, c'était déjà une accession dans le monde. Il y a une sorte, pas de prétention, mais de satisfaction d'être là et d'être un petit peu élu, entre guillemets, parce que les concours sont très difficiles. Donc, j'avais besoin encore d'apprendre, peut-être à Paris, quoi, avec le professionnel qu'il était.
besoin d'une maturation. Alors, le conservatoire, vous en êtes sorti avec un premier prix, ce qui vous a ouvert les portes de la Comédie Française en 72. Alors, on pourrait croire que vous, toujours à la recherche de l'excellence, vous avez été heureux à la Comédie Française. Mais il semblerait que non, puisque vous avez démissionné au bout d'un an.
Mais oui, parce que la Comédie Française avait des lois napoléoniennes et donc on ne pouvait pas obtenir... La Comédie Française était en grève. C'était la malchance pour moi de rentrer à ce moment-là. Et donc, je me souviens, ils avaient installé un chapiteau aux Tuileries. Oui. Et donc, beaucoup de spectacles avaient été annulés. Et il y avait une loi qui disait qu'un jeune pensionnaire qui vient de rentrer ne peut pas avoir deux congés de suite dans l'année. Donc, j'avais obtenu un congé pour aller jouer au TNP sous la direction de Planchon. Oui. Et j'avais des propositions de cinéma pour un jeune qui arrivait un peu tardivement. Déjà 23 ans et demi, 24 ans, c'est déjà un peu tard pour quand on commence. Enfin, à l'époque, ça me paraissait tardif déjà. Et donc, on m'a refusé la possibilité d'aller faire ce film. Alors, j'ai été devant un cas de figure qui a fait que j'ai dit à l'administrateur de l'époque, j'aimais beaucoup Pierre Dux, grand acteur et tout, et j'ai dit écoutez, je peux pas laisser passer les chances du cinéma, donc je suis parti et j'ai pas été le seul à partir. Il y avait Isabelle Adjani, il y avait Francis Perrin, et du coup les lois ont changé et se sont assouplies, et maintenant les comédiens de la Comédie Française jouent à la fois dans beaucoup de théâtres, y compris à Paris, et font du cinéma assez souvent.
Et alors, autre chose étonnante, à l'époque, aux Français, quand vous jouiez une pièce de Molière dont le premier rôle était par exemple tenu par Robert Hirsch, vous ne répétiez pas avec Robert Hirsch, vous répétiez avec les souffleurs. Oui. Ça, c'était vraiment l'usage de la Comédie Française.
C'est incroyable, c'était un rude apprentissage pour un jeune comédien qui venait de rentrer, en effet.
Mais vous ne découvriez quand même pas le comédien auquel vous deviez lancer vos répliques au moment d'entrer en scène.
Si, si. Absolument, c'était dans le Bourgeois Gentilhomme, je jouais le maître de musique, j'avais remplacé, je me souviens, Plume, enfin bon bref, j'avais répété avec le souffleur, et alors en plus, dans le Bourgeois Gentilhomme, il y a une bagarre entre le maître de philosophie, le maître de musique, etc. Et donc j'avais répété avec le souffleur dans les mouvements, etc. Donc je me souviens que la première c'était à Bordeaux, et donc quand vous jouez avec Jacques Charon, Robert Hirsch, Micheline Boudère, enfin bon, et on se dit, oh là là, ouais, c'est difficile de jouer, de se libérer complètement, on n'a pas envie de les mettre en difficulté, donc on respecte vraiment le déplacement. Non, c'était une rude école, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on apprend assez vite sur le tas. Quoi.
On retrouve tout de suite André Dussolier.
Il est 21h30, la suite de N'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1 avec Isabelle Morizet en compagnie d'une voix identifiable, unique, un comédien.
André Dussolier, mon invité. Alors, cher André, le premier film que vous avez vu au cinéma était Les 400 coups de François Truffaut. Les 400 coups qui avaient reçu le prix de l'Office catholique, ce qui avait rassuré vos parents, alors que vraiment, on y évoquait de façon frontale et cruelle des choses taboues pour l'époque. Or, le premier rôle que vous avez tenu au cinéma était dans un film de François Truffaut, Une belle fille comme moi. Est-ce que vous avez avoué à Truffaut, sur le tournage de ce premier film avec lui, que en fait vous aviez découvert le cinéma grâce à lui quand vous aviez 13 ans ?
J'ai dû lui en parler, peut-être bien, oui, mais j'étais tellement impressionné de le rencontrer, tellement impressionné de faire un premier film avec lui en plus, que je me souviens surtout des moments de tournage avec Bernadette Lafont, Charles Denner, Claude Brasseur, Philippe Léotard. Il y avait tellement de grands acteurs que j'étais, mais vraiment, je ne savais pas très bien où me situer. Et puis tout d'un coup, il nous mettait à l'aise parce qu'il était comme le premier spectateur de son film, et j'étais frustré surtout qu'il fasse si peu de prises, quoi. Je me disais, mais comment ça se fait? On a à peine, Flore et je venais du théâtre, donc on a commencé la scène, François. Mais non, mais ça va très bien, on passe à la suivante. Ok, d'accord. Donc j'ai découvert le cinéma avec cette espèce de rapidité, d'obligation d'aller vite, comme ça, de passer de scène en scène. Mais en même temps, c'était pas un film très truffaldien, comme on dit. C'était vraiment une comédie un peu à part, qui d'ailleurs était surprenant pour les habitués de Truffaut. Mais j'avais un personnage qui était d'ailleurs un peu particulier et qui a un peu brouillé les pistes, parce que moi, je ne ressemblais pas du tout à ce personnage. C'était l'époque où il y avait tous les acteurs américains qui se métamorphosaient d'un rôle à l'autre. Moi, j'avais des gants jaunes, des lunettes. Et j'ai pu constater, après la sortie de ce film, que les metteurs en scène que je rencontrais pensaient que j'avais dans la vie des gants jaunes et des lunettes. Donc, c'était un peu difficile de me défaire de ça.
Ah, les gens ne sont pas curieux. Alors, vous venez de nous dire qu'il faisait très, très peu de prises, en fait, Truffaut. Est-ce la raison pour laquelle vous aviez pris l'habitude de rejouer à l'écart du plateau les scènes que vous veniez de tourner, histoire comme ça de vérifier si vous étiez bien allé au bout de ce que vous aviez à donner? années. D'ailleurs, ça bluffait Truffaut.
Oui, il m'a surpris comme ça un jour. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? On avait fini la scène. Ben, j'ai dit, ben, je la rejoue, j'essaie de voir un petit peu si j'ai fait tout ce que je voulais faire, etc. Il me dit, ben, alors, vous êtes le seul acteur avec Michel Bouquet à répéter les scènes une fois que vous les avez tournées. J'ai dit, ben oui, mais parce que c'est le théâtre, sans doute, c'est l'habitude. Et donc, je ne les ai pas encore rompus vraiment aux habitudes du cinéma.
André Dussolier, vous avez donc démarré au cinéma quand Devers et Depardieu imposaient, avec le Triomphe des Valseuses, leur profil de voyou décomplexé. Ouais, ouais. Alors, vous qui aviez un physique de fils de famille, ouais, est-ce que vous êtes interrogé, est-ce que vous avez vite compris finalement que, malgré votre talent, vous auriez peut-être du mal à être distribué dans certains rôles dont vous aviez envie de vous emparer, mais qui ne correspondaient pas à votre profil?
Oui, c'est vrai que, bah, de toute façon, c'est la destinée des acteurs. Ça, vraiment, on est vu un petit peu. En plus, j'ai mis le pied dans la génération des auteurs, enfin, des metteurs en scène auteurs. Donc, après Truffaut, il y a eu René, Romer, Rivette. Enfin, vraiment, j'avais l'impression d'être l'acteur des auteurs qui ont des choses à dire. Et donc, je jalousais beaucoup Bernard Giraudot, Gérard Lanvin, qui escaladaient des montagnes et qui jouaient des spécialistes, parce que j'aimais beaucoup le sport. Moi, j'avais été élevé dans une région très sportive.
Oui, vous êtes sportif, mais les metteurs en scène ignoraient.
J'avais pas la tête à ça, mais ça c'est le lot des acteurs, et donc j'ai compris à ce moment-là que c'était pas mal de montrer aux metteurs en scène, à travers les rôles qu'on pouvait solliciter ou faire, des faces un peu différentes, inattendues, parce que, encore une fois, moi c'est vraiment en 72, quand je suis sorti du conservatoire, je voyais les De Niro, Hoffman, etc. Se métamorphoser.
Al Pacino.
Oui, c'est ça, et j'ai trouvé incroyable de jouer des personnages si différents, de pas reconnaître même les acteurs ou de les reconnaître au milieu du film. Je trouvais ça vraiment réjouissant pour le spectateur d'être à chaque fois devant une prestation unique, quoi, et différente, qui ne ressemblait pas à la précédente. Et je pensais que c'était ça vraiment la vocation d'acteur. Donc, du coup, bon, j'ai accepté cette règle qui fait que on dépend un petit peu du regard de l'autre, du metteur en scène d'abord, et puis de son envie de nous voir dans des rôles peut-être inattendus, différents. C'est ce qu'on espère toujours.
Alors, vous avez tourné, bien sûr, sous la direction des plus grands, André Dussolier. Mais vous avez une tendresse, j'ai envie de dire presque particulière, pour Alain Resnais, dont les films étaient si délicieusement inattendus. La mère d'Alain Resnais lui avait dit un jour « Mais pourquoi tu ne fais pas des films comme les autres ?» Et il avait eu cette réponse merveilleuse « Mais parce que les autres le font !» Il vous a appris quoi, Alain Resnais, peut-être sans le savoir, à vous qui avez tourné 6 films, je crois, avec lui?
Oui, 6 ou 7 films, je ne sais plus. Mais il m'a appris, c'était vraiment un autodidacte, quelqu'un qui faisait des films qu'il avait envie de faire. Enfin, ce n'était pas forcément facile, justement. Puis quelqu'un qui pouvait vraiment s'intéresser autant dans la vie, parce que je l'ai connu autant dans la vie que sur les plateaux de cinéma, et donc autant au radis noir qu'au téléphone portable. Enfin, il s'intéressait à tout, il lisait tous les journaux, et donc il a prouvé qu'il faisait des films tout à fait différents à chaque fois. Je me souviens de Connaît la chanson, qui était une idée magnifique, où on doublait des voix de chanteurs, comme ça, à certains moments, la chanson disait un peu, peut-être avait valeur de réplique, quoi. Donc, à chaque fois, c'était des surprises et c'était une manière d'être très délicate avec les autres. Je parle pas seulement des acteurs, mais avec tous les membres de son équipe. Il était vraiment attentif. Il sollicitait vraiment ce que chacun avait envie de proposer dans son métier, dans sa voie professionnelle. Voilà, c'était un être d'une grande attention, une grande délicatesse. Une belle personne. Oui, grande personne.
Alors, ces 5 dernières années, vous avez porté avec un panache extraordinaire l'aventure théâtrale de Novocento, qui vous a valu un Molière, et qui raconte l'étrange destin d'un homme né sur un paquebot et qui va devenir le plus grand pianiste de jazz du monde sans jamais de toute sa vie descendre à terre. Alors, bien sûr, c'est une métaphore de la recherche de sa place dans le monde. Et forcément, quand on décide de jouer un texte pendant 5 ans, André Dussolier, bah, c'est qu'il dit quand même beaucoup de choses sur vous, non ?
Oui, alors d'abord il dit des choses aux spectateurs, puisque les gens quand même viennent,
parce
qu'on a joué 380 fois, c'est beaucoup, et les salles étaient vraiment toujours très pleines, toujours, que ce soit en province ou à Paris. Donc ça veut dire que le spectacle ou le texte ou la pièce parlait, quoi, aux gens, et le destin de cet enfant né sur le bateau et qui n'en descendra jamais parlait beaucoup aux gens. C'est évidemment, comme vous dites, une métaphore sur la vie, et c'est vrai que ça parle à beaucoup de gens dans cette société aujourd'hui où on finit par s'émietter et se perdre un peu en cours de route, tandis que lui, il reste fidèle à lui-même, quoi. C'est un peu ça que ça raconte. Et donc, j'étais heureux de jouer cette pièce, d'autant que je m'y suis pris vraiment. J'ai tout conçu de A jusqu'à Z. Enfin, entre
vous avez même L'idée d'intégrer un orchestre de jazz qui n'était pas prévu au départ par l'auteur, vous êtes presque le co-auteur de la pièce.
Ah,
je le dis. Hein.
C'est beaucoup dire, mais en tout cas, vraiment, je me suis... D'ailleurs, c'est marrant, je fais allusion à On connaît la chanson de René, mais j'y pensais beaucoup parce que je me disais, les chansons, elles arrivent de façon inattendue dans ce film. Et ben, c'est un peu comme ça que j'ai conçu ou que j'ai imaginé Novecento, c'est-à-dire avec une musique, des standards de jazz des années 30 qui intervenaient à certains moments et qui étaient vraiment réjouissants parce que c'était des belles mélodies qu'on a tous en tête. Et donc, et ils étaient là, quelquefois, à prendre la continuité. Et moi, je sortais de scène. Mais tout ça, naturellement, suivant le fil du récit. Donc, c'est pour ça que ça a fonctionné.
En tout cas, c'est une étonnante passion que celle qui vous fait échanger en permanence votre vie contre d'autres vies et vous permet d'être, par exemple, Amédée dans le film miraculeux de Jean Becker, Les Enfants du Marais, ou encore le consul suédois Nordling dans le film impeccable de Volker Schlöndorff, Diplomatie, en passant par Staline en personne dans le film de Marc Dugas, Une exécution ordinaire, puis tant d'autres personnages en 47 ans de cinéma. Mais André Dussollier, s'il y avait un tournage à revivre, autant pour la performance imprimée sur la pellicule que pour la qualité des relations humaines, vous choisiriez de revivre lequel ?
Oh, le revivre, je ne le revivrai pas parce que vraiment, on peut pas vivre deux fois les choses comme on les a vécues, mais je me souviendrai vraiment toujours de Mélo qui a été pour moi un tournant parce que c'était avec René, il y avait déjà Sabine, Azéma et Pierre Arditi et Fanny Ardant. Et dans Mélo, c'était vraiment pour moi une chance d'avoir un rôle où il y avait toutes les facettes, quoi. Il y avait l'émotion, la fantaisie, la légèreté. Et puis c'était lié au théâtre, d'ailleurs, c'est curieux. C'était une pièce de théâtre. Il a pas caché d'ailleurs que c'était une pièce de théâtre.
Ouais.
Mais c'était vraiment très bien tricoté, comme il disait, les rapports humains, etc. Et tout, c'était, et surtout cette attention qu'a René vis-à-vis des scènes, quoi. Vraiment, il nous laissait proposer un peu ce qu'on sentait. Puis on avait très peu de jours pour jouer. Non, ça, pour moi, ça a été important. C'était un moment important.
Léon Gérou, le petit lézard qu'il vous a offert un jour à la fin d'un tournage.
Oui, parce qu'il y a tellement... On est dans une époque où on décerne toujours des tas de prix, etc. Donc lui, il devançait les Césars et les autres récompenses. À la fin de chaque tournage, il distribuait à tout le monde des récompenses. Alors Alors la dernière fois, c'était un lézard, en effet, qu'il avait peint en rouge, lézard, je ne sais plus comment il appelait ça.
Voilà, enfin, lézard,
oui, voilà,
ça se lit et s'entend de plein de façons.
Oui,
on retrouve tout de suite André Dussollier.
Jusqu'à 22h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, les meilleurs entretiens de la saison. Et pour débuter ces festivités, un comédien qu'on écoute là depuis déjà 21h, comédien récompensé par plusieurs Césars et un Molière, c'est André Dussollier.
Cher André Dussollier, jusqu'où dans votre ascension, vos parents, qui vous espéraient donc sous-préfet et non pas acteur, vous ont-ils accompagné ? De quel triomphe ont-ils été les témoins surpris et rassurés ?
Ah, c'est toujours difficile de jouer devant sa famille, hein, parce que la première fois, que ce soit au théâtre, ils vous disent pas grand-chose sur la pièce ou sur le rôle que vous venez de jouer. Ils vous disent « Oh, j'aime pas du tout la manière dont t'es habillé. » Puis alors, la manière dont t'es coiffé, je trouve que ça... Bon, donc il y a toujours des réflexions très personnelles, quoi. Ils nous voient... Et en fait, c'est plus par les amis de mes parents que j'ai eu, comment dire, un reflet ou un retour un peu de leur sentiment, de leur appréciation. Mais c'est toujours très difficile quand on voit son fils, sa fille ou je sais pas, un proche jouer, parce qu'on ne peut pas se décoller si facilement de l'image intime qu'on a de la personne.
Mais ils n'ont pas été déçus, attristés que vous démissionniez au bout d'un an de la Comédie Française ?
Oh, ils connaissaient pas trop le milieu, donc ils m'ont fait confiance. Je pense qu'en fait, quand je suis allé à Paris, j'aurais dit que non, je n'aurais pas dit que je faisais du théâtre. Je leur ai dit que je m'étais inscrit à l'agrégation.
Etc. Ah bon, oui, d'accord.
Donc, je les ai rassurés. Et puis au bout d'un moment, je leur ai dit non, mais j'essaye de présenter le conservatoire. Bon, ils m'ont laissé faire parce que les diplômes à cette époque-là avaient vraiment été rassurants pour les aînés, les parents. Et donc ils se disaient bon, bah si ça fonctionne pas, il s'est accordé une année. Il reviendra ou il refera autre chose, du journalisme, je ne sais pas quoi. Donc, ils étaient plutôt rassurés. Donc, ils m'ont laissé faire. Et après, ils avaient juste une phrase qui était terrible, absolument terrible. Je leur disais, ça y est, quand on est jeune et qu'on décroche un rôle, on est content. Et donc, ils disaient, ça y est, je vais jouer ça. Oui, mais après. Alors ça, évidemment, là, j'étais battu parce que...
Vous étiez battu. Alors, vous, André Dussollier, vous n'avez absolument jamais contrarié la vocation d'acteur de votre fils. C'est lui, au départ, qui a cru devoir prendre des distances avec l'univers de son père, puisque votre fils a d'abord été juriste, puis journaliste sportif, avant d'oser enfin devenir acteur. Comment vit-il cette passion qui le ramène finalement à son père ?
Oui, c'est étrange, parce que le chemin, finalement, je m'en rends compte en vous écoutant, est identique. C'est-à-dire que moi-même, j'ai attendu longtemps d'être au pied du mur pour franchir le pas et aller à Paris et tenter cette aventure. Et lui, finalement, il a essayé, mais parce que son père étant acteur, sa sœur aussi ayant décidé d'être actrice, donc du coup, ça faisait vraiment beaucoup et les éléments de comparaison étaient trop oppressants pour lui, donc il a tenté de faire autre chose. Parce qu'il entendait ses copains qui disaient « Bah alors, tu vas être acteur, évidemment », donc ça l'énervait. Et il voulait faire autre chose. Il a tenté d'autres voies. Et puis finalement, il a été rattrapé par son plaisir, son désir, parce qu'il était toujours très, très animateur au milieu de tous ses copains, etc. Il jouait tout le temps la comédie. Donc voilà. Ouais. Et je suis content. Il s'est débrouillé tout seul. Il s'est donné 3 ans. Et puis là, maintenant, il joue dans Le Misanthrope avec Lambert Wilson. Donc voilà.
Et dans Le Misanthrope avec Lambert Wilson, absolument. Et au cinéma, bientôt, à l'affiche. Alors, il s'appelle Léo Dusselier, physique absolument magnifique, qui sera donc à l'affiche du film, en fait, Raoul Taburin avec Benoît Poulvorde et Édouard Baird le 17 avril. Donc vous serez ensemble dans les salles obscures de cinéma, projetées, vous avec la nouvelle comédie d'Étienne Chatiliez, n'est-ce pas, aux côtés
c'est
de Sabine Azéma. Et lui,
que...
c'est drôle.
Oui, je ne savais pas. Mais non, mais je sais qu'il grappille petit à petit de rôle en rôle, etc. Je sais, moi, il ne me raconte pas tout et il me raconte une fois que c'est acquis, quoi, une fois qu'il est dans les films. Mais je suis content qu'il fasse son chemin comme ça, tout seul, en entreprenant avec son envie, son plaisir de rencontrer les autres et puis d'y aller marche après marche. Quoi. Et j'espère que ma fille fera la même chose.
Absolument. Alors, parlons de Tanguy le retour. Si vos enfants, à vous, ont très vite volé de leurs propres ailes, eh ben voilà, c'est pas le cas de votre fils de cinéma, Tanguy, imaginé par Étienne Chatiliez. À 28 ans, Tanguy vivait encore chez ses parents et puis voilà qu'à 44, il retourne vivre chez ses parents. Vous savez qu'il existe une loi qui oblige les parents à prendre en charge les enfants, quel que soit leur âge. Hein. Vous avez 80 ans, ils en ont 50, il faut les prendre en charge tant qu'ils n'ont pas le gîte et le couvert.
Oui, mais est-ce que vous savez aussi que la loi s'inverse ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont les enfants qui sont obligés de prendre soin de leurs parents. Donc, c'est vrai que l'absence
bon,
de
alors
temps...
15 ans.
Donc, du coup, peut-être bien que Tanguy reviendra sous prétexte de s'occuper de nous, quoi, évidemment.
La singularité du projet de Tanguy, c'est tout de même de faire une suite 18 ans plus tard, sans qu'on réalise du tout que autant d'années se sont écoulées. Et d'ailleurs, dans ce laps de temps, faire son Tanguy est devenu une formule familière. Vous êtes tous retrouvés comme si vous aviez tourné avant-hier.
C'est vrai, il y a quelque chose de magique, peut-être parce que ça s'était bien passé, le premier tournage, et que le film a bien fonctionné. Et donc, et puis nos natures aussi, ça semblait bien les unes avec les autres. Quand j'ai vu Éric Berger rentrer pour échanger la réplique lors du premier Tanguy, c'était incroyable. Il avait franchi la porte et le palier, et c'était, pour moi, c'était lui, quoi. Il n'y avait pas d'autre qui pouvait être mieux Tanguy que sa façon d'être, toujours un peu zen, un peu souriante, un peu narquoise, comme ça. Et puis voilà, il est inattaquable, Tanguy. Il est très gentil, mais il est insupportable.
Voilà, le problème de Tanguy, c'est qu'il est inattaquable. Comme sa fille d'ailleurs, parfaite, qu'elle en devient affolante, effrayante.
Oui, et puis en plus, ils ont toujours un proverbe chinois qui vous balance comme ça à tout moment. Donc vraiment, ils font de la philosophie à toutes les secondes et on est battu, quoi, aussi là. On est obligé de baisser les armes, quoi.
Même pour quelqu'un qui a une maîtrise de l'être moderne.
Il est tout juste 21h54, on arrive au terme de cette conversation entre Isabelle Morizet et son invité, le comédien André Dusselier. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
André Dusselier, on a du mal à imaginer que vous, petit-fils de paysan montagnard, hein, fils d'une inspectrice des impôts et d'un trésorier principal, eh bien on a du mal à imaginer que vous ayez pu, à une époque de votre vie, jouer ailleurs que sur scène, c'est-à-dire sur la terre des flambeurs au casino. Ça n'a pas duré longtemps, mais vous avez eu cette faiblesse-là.
Oui, j'ai eu cette... mais je ne sais pas si c'est une faiblesse, c'est une envie de se confronter au hasard, de se mettre en danger aussi, parce que les joueurs, il y a quelque chose d'impressionnant de voir qu'ils vont... mais peut-être c'est le danger plutôt, c'est le risque.
Je disais faiblesse parce que vous avez été très structuré par votre éducation, donc en fait c'est plutôt de l'ordre de la fascination.
Oui, oui, en une seconde. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est arrivé, parce que j'ai mis les pieds dans un casino entraîné par des copains et qui n'avaient pas de grandes ambitions. Puis je suis arrivé devant une machine et j'ai tout gagné. Mais vraiment tout gagné. Donc évidemment, on se dit, bah, ça va se répéter le week-end d'après. Puis pas du tout. Là, c'est la chute qui commence. Et donc, du coup, je me suis fait avoir, en fait. Hein. Et c'est fascinant de voir qu'on peut tout gagner ou tout perdre en une seconde. Et bon, après, c'est une question de volonté, hein, de s'arrêter, de savoir s'arrêter.
Mais vous dites que vous avez vécu des scènes de films fascinantes avec des personnages dignes de Dostoïevski.
Oui, complètement. Complètement, oui, absolument. Et oui, j'ai vu une scène en particulier dans un casino à Deauville, je me souviens, il y avait un monsieur qui jouait des sommes considérables, et dans ces cas-là, il est tout seul à la table. Il y avait une sorte de cordon sanitaire autour de lui, mais il y avait une Anglaise qui était là, qui ne comprenait pas vraiment les codes, et qui donc continuait à jouer sur la table. Et à un moment donné, ce monsieur, qui avait quand même pas mal de jetons devant lui, la dame lui effleure l'épaule, et comme il ne supportait pas de ne pas être tout seul.
Oui.
Et il a dit cette formule magique qui parle au casinotier, change inverse. Ça voulait dire qu'il fallait qu'on le rembourse tous les jetons, c'est-à-dire qu'il partait. Parce qu'il ne supportait pas d'avoir été dérangé dans sa concentration et dans sa bulle. Là, je rentre dans le monde un peu spécial.
Oui, oui, tout à fait,
hein,
extrême.
Je ne sais pas à qui ça peut... Mais ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir se rompre et s'éloigner, quoi. C'est un peu comme la cigarette ou comme autre chose, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment donné où la volonté... Et on n'est pas déterminé et on peut dire
voilà.
Non, je ne continuerai pas.
Donc vous avez su faire marche arrière seul avant de frôler l'abîme.
Bah oui, non, j'ai jamais frôlé l'abîme. De toute façon, alors il y a la figure paternelle qui est là et qui lui alors dit non mais c'est complètement cinglé. Non, je peux pas. Non, il y a une limite et puis soi-même, on est sa propre limite. On se dit non, c'est pas possible. Je veux pas perdre en une seconde tout ce que j'ai mis tant de temps à gagner. Donc non, c'est ridicule. Mais ça permet de vivre des choses qui ne sont pas de l'ordre du quotidien et de la banalité qu'on peut croiser quelquefois et à laquelle on est soumise. Donc là, tout d'un coup, le jeu, c'est un moment extraordinaire. Un peu, bah, vous voyez, c'est le même mot. Hein, le
Alors,
jeu.
Face justement à la banalité du quotidien, peut-on dire, André Dussolier, que votre vie d'homme, en fait, n'est qu'un entracte dans votre vie de comédien ?
Vous savez que c'est une phrase de Molière que vous venez de dire là.
Je l'ignorais.
Ben oui, il a dit dans ma vie d'homme de théâtre, ma vie d'homme n'est qu'un entracte. Le métier mange ma vie. Et voilà, c'est vrai que c'est le danger. Mais en même temps, je pense qu'on a toujours besoin de revenir à la réalité. Dieu merci, j'ai des enfants, j'ai une vie... J'aime bien revenir à la réalité. J'ai des amis, j'ai aussi... Alors, c'est l'effet de la décentralisation, de la campagne, de la ville. Donc, je peux retourner à Annecy pour me... Voilà, au sommet des montagnes. Non, il y a un moyen toujours de se retrouver et de trouver l'équilibre au milieu de tout ça.
Comme vous ne savez vous consacrer qu'à un projet à la fois, vous convenez qu'une vie qui durerait 300 ans, eh ben, vous conviendrait tout à fait. Est-il vrai d'ailleurs que vous avez été capable de refuser un film d'Alain Resnais parce que vous jouiez le soir au théâtre ?
Ah oui, c'est impossible de faire les deux, donc c'était
Vous n'êtes pas du tout fait de la même Ocarditi ?
Ah non. Je l'ai fait à certains moments, mais j'ai vu combien ça coûtait, combien ça physiquement, et donc c'est impossible de faire les deux. Donc, René m'avait dit, mais vous inquiétez pas, j'amènerai une ambulance à côté du tournage. Oui, d'accord. Parce que c'était
pour rouler plus vite.
Oui, c'était l'habitude américaine. Non, oui, pour rouler plus vite d'une part, et puis moi, je l'ai pris au premier degré, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, ça veut dire que si je tombe malade, il y aura une ambulance qui vient, d'accord. Non, Alain, je peux pas. C'est pas ma tête, c'est pas mon cœur, c'est mon corps. Je peux pas faire les deux. Et donc, voilà, j'ai dû renoncer.
Récemment, André Dussolier, vous avez vu Trintignant sur scène dire la poésie qu'il aime, et c'était magnifique. Michel Bouquet également est un passeur qui défie le temps. Donc, dans ce métier, plus que dans un autre, on ne s'arrête pas parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on s'arrête, c'est ça ?
Le monde publicitaire vous a pris aussi la formule. Vous faites du Molière sans le savoir et de la publicité sans le savoir. Parce que j'ai vu en effet qu'à propos d'une voiture, c'est ça en fait. Hein, on ne s'arrête pas parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on s'arrête.
Alors, puisque vous prenez votre temps à faire tout ce qui vous passionne, rassurez-nous, vous allez vivre 300 ans, André Dussolier.
Non, mais je m'en tire toujours avec une formule d'Alphonse Allais que j'aime beaucoup, qui dit « J'ai décidé de vivre éternellement. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. »
Ah, c'est formidable. Merci de nous avoir embarqués avec tant d'esprit et de générosité pendant cette promenade.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse, à très bientôt.
Retrouvé. Merci.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Les meilleurs entretiens de la saison. N'hésitez d'ailleurs pas à réécouter toutes ces belles conversations en podcast sur Europe 1.fr.